Je vais vous faire part en fait d'une expérience que j'ai conduite avec une amie et collègue, une amie et néanmoins collègue, hein, bon, comme on voudra, qui est sociologue. Et ce qui m'intéresse, ce qui nous a intéressé, c'est que on partait du fait suivant, c'était d'essayer de comprendre quelle avait été la cohabitation ancienne de la loutre avec les hommes, et par voie de conséquence, qu'est-ce que cette cohabitation, qui, je le précise tout de suite, a été très longtemps conflictuelle, qu'est-ce que cette cohabitation a induit en fait en matière d'évolution des comportements de la loutre elle-même. En fait, globalement, c'était de comprendre pourquoi on observe au XIVe, XVe, XVIe siècle un certain comportement de la loutre qui, lorsque l'on va vers les gens qui travaillent, les écologues, les éthologues aujourd'hui qui travaillent sur la loutre, ils nous ont, pour un certain nombre d'entre eux, au départ, maintenant c'est devenu différent, mais au départ, ils nous ont dit « ce n'est pas possible ». Et donc, quand ils nous disaient « ce n'est pas possible », ça voulait dire aussi qu'eux détenaient un savoir naturaliste dit scientifique, et que nous, travaillant donc sur, pour la personne qui est sociologue, sur des interviews, moi sur des sources anciennes, ça veut dire que nos sources n'étaient pas fiables. Donc voilà un peu le contexte. Alors, le tout est donc d'essayer de voir, non pas comment, en quoi le modèle actuel de connaissance sur la loutre ressemble ou non à l'ancien, mais en quoi il diffère significativement. Hein. Bon. Alors, je vais commencer donc par la partie historique. Les sources, ce sont des sources comptables. Ce sont en fait les registres dans lesquels sont consignées les captures de loutres. Je dis tout de suite, je précise que dès le Moyen-Âge, la destruction de l'animal, de la loutre, a été encouragée par les pouvoirs politiques en vue de sauvegarder ce que tous les textes d'alors disent, entre guillemets, les ressources utiles des eaux, ça veut dire le poisson. Alors, bien comprendre aussi qu'à ce titre-là, l'animal est classé parmi les nuisibles. Pourquoi nuisibles ? Parce que tout simplement, c'est un concurrent alimentaire de l'homme. Il faut bien comprendre qu'on est dans ces siècles-là, et encore jusqu'au XIXe siècle, hein, dans des périodes où la survie alimentaire n'est pas toujours assurée, et donc le poisson est un complément important, et qui plus est, nous sommes dans des sociétés christianisées, enfin du moins ont un vernis christianisé, et à ce titre-là, eh bien, il est nécessaire de respecter un certain nombre de prescriptions religieuses, et le poisson, ben, c'est l'aliment que l'on consomme à ce moment-là. Alors, dans ces registres comptables de primes, je vais vous décliner un petit peu les renseignements dont nous disposons. Vous allez voir que les officiers princiers, seigneuriaux, etc., étaient tout à fait compétents pour le faire. C'est mentionner qui a pris la prise, qui a pris l'animal, où. Et où c'est souvent au toponyme près, hein, en présence de qui, il y a des témoins, quel jour, dans quelles circonstances, avec quel, ce qu'on appelle engin, et quel, c'est-à-dire avec quelle arme finalement, avec des chiens, etc. Et qui plus est, pour être sûr que l'on ne va pas attribuer une prime de manière frauduleuse, il faut apporter l'animal. C'est-à-dire qu'il faut, en plus de l'officier forestier qui va être témoin sur les lieux, on apporte l'animal entier à l'officier régisseur comptable, bien sûr, pour percevoir la prime. Donc, on peut penser quand même, et quand on sait combien les princes, tous ces rois ont eu comme problème d'argent, il est à peu près certain qu'on n'a pas donné de... à peu près certain qu'on n'a pas distribué des primes à mauvais escient. Hein? On aurait même eu plutôt tendance à, comment dire, un peu rogner sur le montant de la prime. Alors, autre chose aussi qui est importante, c'est que si on ne distingue pas mâle-femelle, on distingue en tout cas adulte-petit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée de la population, si c'est une population plutôt d'adultes ou une population de jeunes. Alors, qui chasse ? Qui chasse, c'est un personnel hyper spécialisé. c'est ce qu'on appelle les loutriers, les chasseurs de loutres. Donc, ils sont rémunérés à la prime. Alors, peut-être aussi que ça fait en sorte qu'ils font un peu de zèle, peut-être. Des chasseurs de loutres qui sont accompagnés par des chiens qui sont entraînés à la chasse à la loutre, à la traque à la loutre. Hein. Et puis, ces chasseurs ont des engins, comme on dit dans ces textes, c'est-à-dire, en fait, des bâtons. Défiler, mais le plus souvent, en fait, ce sont les chiens qui font le travail, qui la débusquent dans l'eau, et elle est généralement prise dans des filets, et ensuite elle est assommée. Elle n'est pas non plus tuée avec d'autres armes piquantes, etc., parce que vraisemblablement, bien que les textes n'en parlent pas, vraisemblablement, la peau était récupérée, mais ça, c'était toute une économie infra-marginal, ça reste en dehors des circuits officiels. Bon. Alors, ces chasseurs, ce sont des gens qui sont généralement recrutés dans les mêmes familles. Donc, il y a déjà, on peut penser qu'il y a un savoir-faire empirique, pratique, qui doit se transmettre d'une génération à l'autre. Autre élément très important, ces loutriers restent en charge très longtemps. En règle générale, c'est entre 20, 25, voire même 30 ans pour certains d'entre eux, sur le même territoire. C'est-à-dire que, vraisemblablement, là, ils ont acquis une connaissance, on peut dire, empirique, certes, qui n'est pas scientifique, mais enfin, ils ont eu le temps d'observer les comportements de l'animal. Alors, je vais vous donner... à partir d'un exemple concret, c'est à partir de l'exemple de la Bourgogne, parce que là, on dispose pour cette fin du Moyen-Âge, début d'époque moderne, donc entre le XIVe et le XVIe siècle, on dispose d'un fonds énorme. Ce sont les aléas de la conservation, hein, tout simplement. Mais d'un fonds énorme de registres comptables qui contiennent donc des primes, toutes les primes, pour les prises de la loutre. Alors, premier constat, c'est conflictuel, ça c'est sûr, mais ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre quels sont les degrés, les modalités de cette cohabitation conflictuelle. Premier constat, c'est que la présence de l'animal, de la loutre dans les campagnes, jusqu'au fossé des villes, c'est quelque chose de totalement normal. C'est banal, absolument banal, la loutre pullule. Donc, ce n'est pas un animal... rarissime, ça veut dire qu'en fait que tout le monde sait à quoi ressemble une loutre. Il n'y a pas à se poser la question de se dire est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que c'est bien cet animal. Il y en a partout, donc petit, grand, jeune, vieux, tout le monde sait ce qu'est une loutre. Première chose. La preuve en est, c'est que très souvent on vous dit c'est pas la peine de la décrire parce que tout le monde la connaît. Hein, les textes en font état. Pour l'espace bourguignon, alors l'espace bourguignon d'alors, ça correspond aux deux départements de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire, hein, à peu près. Dans à peu près un siècle, entre 1350 et puis 1450-60, on a un peu plus de 3700 individus qui ont été capturés des animaux essentiellement adultes. Il y a quelques jeunes, mais ce sont des animaux essentiellement adultes. Et alors, on s'est permis de faire une moyenne qui doit faire rêver un petit peu, enfin rêver entre guillemets les gens qui aujourd'hui s'intéressent à la réintroduction de cet animal, puisque la moyenne de prise, qui est certes une moyenne toute théorique, ça veut dire qu'on prend en fait plus de 28 loutres par an, chaque année, pendant un siècle. Bon. Dans la mesure où la chasse laisse une grande part à l'habilité des individus, des humains, des chiens, etc., qu'il n'y a pas de piège mécanique, ça veut dire que les tableaux de chasse correspondent, donnent une idée absolue, enfin, fiable, de la densité de l'animal, de la densité de la population loutrine. Autre constat aussi, parce que les documents sont constamment regorgent en fait de ces lamentations, c'est un animal vorace. C'est le problème, vorace, les étangs sont dévastés. On a même des mentions d'étangs qui finalement, des étangs, on s'apprêtait à les pêcher. Et puis finalement, on ne va pas les pêcher l'année dite parce que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de poissons. Et pour cause, les loutres sont venues faire quelques banquets dans l'étang. Donc, il y a c'est un leitmotiv constant des plaintes. Troisième point, je voudrais souligner encore, je reviens là-dessus, sur l'efficacité des chasseurs et donc sur l'importance du savoir qu'ils ont acquis, soit du savoir transmis, d'un savoir profane, empirique, qui n'a pas laissé de traces, si ce n'est de manière indirecte par les sources. Et puis, autre constat, c'est le dernier aussi qu'on peut faire, c'est qu'au vu des prises répétées, on s'aperçoit que ce n'est pas une loutre qu'on prend à la fois, ce sont des prises conjointes. Il est fréquent, c'est la grande majorité, où on peut, en une seule journée, au bord d'un même étang, au bord d'une même rivière, dans une même section de rivière, prendre 2, 3, 4, voire 5 loutres au même moment. Bon, ça veut dire que ce n'est pas un animal solitaire. Quand on met la main sur un individu, il y a de grandes chances pour qu'on mette la main aussi sur d'autres individus. Bon. Alors, ces constats, moi je me souviens très bien d'être allée voir, il y a quelques années quand même de ça, hein, des naturalistes pour leur dire, voilà ce que j'ai dans mes sources, ils m'ont dit, c'est impossible. C'est impossible, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on sait de la loutre. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien lu les textes? Premièrement, oui, je pense avoir bien lu les textes. Deuxièmement, tu es sûr que ces gens-là, ils savaient reconnaître la loutre, ils n'ont pas confondu avec autre chose, etc. Est-ce que tu es sûr que ces gens n'ont pas affabulé, etc. C'est-à-dire, en fait, de me questionner pour me dire... pour considérer en fait que les sources sur lesquelles je m'appuyais étaient des sources ascientifiques. Bon, très bien. Dans le même temps, il y a eu cette amie, donc Elisabeth Rémy, qui, elle, a procédé à une étude donc, sur des piscicultures en Limousin, qui a, à base d'enquête, c'est une enquête de sociologie, à base d'enquête, donc, a interviewé plusieurs pisciculteurs. Et alors là, quel ne fut pas notre étonnement de s'apercevoir que les caractères que l'on avait remarqués, relevés par les loutriers médiévaux et du début de l'époque moderne, eh bien, correspondaient, convergeaient avec les observations que l'on pouvait recueillir aujourd'hui auprès des pisciculteurs contemporains. Gros appétit de l'animal, présence simultanée de plusieurs individus en un même lieu, etc. Ça veut dire donc qu'il y avait, il y a une ressemblance entre le savoir actuel profane et le savoir ancien, empirique, médiéval et début de l'époque moderne. Alors, bien sûr, les deux situations ne sont pas comparables terme à terme. Évidemment, nous ne sommes pas dans les mêmes milieux et le rapport à la nature, le rapport au vivant n'est pas le même non plus. Mais quand même, ce que démontre en fait cette confrontation entre deux situations, c'est que on a en fait un animal qui vit dans une nature anthropisée, dans une nature où il rentre constamment en contact avec les installations humaines, et que selon que ce contact est toléré, pas toléré, conflictuel, où il est pourchassé, etc., eh bien, l'animal va, en fait, adapter ses comportements à la situation anthropique. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est de bien, enfin, d'essayer de vous convaincre que les sciences sociales et humaines, et l'histoire en particulier, peut aussi permettre de prendre une distance, en fait, avec les observations contemporaines des naturalistes qui nous avaient dit « Non, elle n'est pas vorace, elle est nocturne, elle vit en solitaire, etc. » Moi, je me souviens, je me disais « Mais c'est pas possible quand même que sur deux siècles, j'ai autant d'informations, autant contradictoires par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui. » Donc, ce qui est intéressant, c'est de, quand on travaille comme ça sur le long terme, c'est de pouvoir capter cette évolution des comportements, l'évolution des rapports animal-homme, et donc l'évolution comportementale aussi de l'animal. Et surtout de pointer le fait que l'animal, la loutre en l'occurrence, mais il est vraisemblable que ce n'est pas la seule, loin de là, le castor aussi, s'adapte constamment aux conditions écologiques et aux conditions anthropiques. Et il semble que ça, c'est aussi intéressant de dans le dialogue entre naturalistes et sciences sociales et humaines, d'arrêter de penser l'animal en termes passifs. Voilà ses caractéristiques, et puis ça ne bouge plus, hein, ou plus ou moins. Et en fait, de lui attribuer une qualité de sujet à part entière, c'est-à-dire l'animal est capable aussi de s'adapter, de capter en fait des conditions qui lui sont favorables ou pas favorables, mais même dans des conditions qui ne lui sont pas favorables, d'arriver à s'adapter. Bon, alors je rassure tous les naturalistes, elle a beaucoup souffert, la loutre, hein, entre le 14e, 15e, 16e, début du 17e siècle. Et puis est arrivé le règne de Louis XIV, très occupé à des guerres à l'extérieur du royaume, etc. Et là, la pression humaine, c'est-à-dire la pression des eaux et forêts, parce que les loutriers font partie du personnel des eaux et forêts, la pression s'est desserrée. Et de nouveau, au 18e, l'animal, dans certaines régions, a bien repris du poil de la bête, si je puis dire, avant donc, eh bien, de nouveau, fin 18e, 19e siècle, cette baisse que l'on connaît jusqu'à une éradication ou presque éradication contemporaine. Hein. Alors, voilà, c'est les points sur lesquels je voulais intervenir pour montrer combien la prise de recul historique est importante pour comprendre en fait le positionnement de tel ou tel animal, pour comprendre aussi peut-être les perceptions profanes, savantes à l'égard de l'animal. Voilà, je vous remercie.